Nous poursuivons donc notre parcours avec Abraham pour ceux qui étaient là dimanche dernier. Et là, cette fois-ci, nous n'avons pas beaucoup de laps de temps entre un chapitre et l'autre. Nous nous souvenons que dimanche dernier, nous avons pu voir ce beau moment où après qu'Abraham et Agar et Sarah aient élevé Ismaël, la promesse du Seigneur est faite à Sarah, comme quoi elle aurait un fils. Et nous continuons dans cette ligne en lisant dans Genèse au chapitre 18, les versets 1 à 15, le récit d'une visite pleine de grâce. Genèse 18, les versets 1 à 15. L'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda. Trois hommes étaient debout, près de lui. Quand il les vut, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je t'en prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, pour réconforter votre cœur, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, trois mesures de fleurs, de farine, pétris, fais des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Abraham répondit, « Elle est là dans la tente. » Il dit, « Assurément, je viendrai vers toi l'année prochaine. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs ? Et mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien d'étonnant ?» de la part de l'Éternel. L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. » Mais il dit, « Si, tu as ri. » Comment croire encore aux grandes promesses ? Vous avez tous reçu certainement déjà dans votre courrier des chèques libellés à votre nom avec des sommes grandioses à plusieurs zéros. Chèques libellés à votre nom si vous acceptez telle ou telle commande qui vous permettra de participer à tel ou tel tirage qui vous fera peut-être de vous un grand gagnant. De belles promesses et jamais rien qui vient. Ou peut-être avez-vous reçu, comme cela m'arrive de temps en temps, un courrier électronique en langage très chrétien pour vous dire que telle personne fortunée souhaite favoriser l'œuvre de Dieu par un don de plusieurs milliers d'euros. Derrière la promesse, ici, c'est l'arnaque où l'on cherche à obtenir vos coordonnées de carte bancaire. Et nous connaissons bien les promesses de nos politiciens qui, comme ils le disent eux-mêmes, n'engagent que ceux qui y croient. Comment croire donc aux grandes promesses ? Nous risquons de nous raidir, de devenir méfiants et désabusés à l'avance face à toute promesse, à tout engagement devant ces promesses grandioses qu'on nous fait et qui n'ont pas de consistance. Notre récit de ce matin nous dit que bien avant la publicité et bien avant Internet, le Seigneur savait que certaines de ses grandes promesses n'étaient pas faciles à s'approprier. Et nous découvrons ici une initiative pleine de grâce de la part du Dieu de la promesse envers Abraham, envers Sarah. Nous sommes devant un texte qui joue certainement sur plusieurs tableaux, un récit où tout est calculé. Tout commence exactement comme le chapitre précédent. L'Éternel apparut à Abraham. C'est dit au début du chapitre 17, c'est dit ici au début du chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham. Mais la suite est toute différente. Alors qu'au chapitre 17, Abraham est parfaitement conscient que c'est le Seigneur qui lui parle. Il n'en est rien ici, dans le texte que nous avons lu. Nous savons, nous lecteurs, que d'une manière ou d'une autre, c'est le Seigneur qui appelle à Abraham. Mais Abraham, lui, ne le sait pas. Abraham, lui, ne le discerne pas de suite. Nous qui savons, parce qu'on nous l'a dit, nous sommes sous le qui-vive. Est-ce qu'Abraham va remarquer que derrière ces voyageurs qui s'approchent de lui, c'est le Seigneur? Est-ce qu'Abraham va réagir correctement? Sera-t-il à la hauteur? Nous tremblons un peu pour Abraham. Et bien vite, nous sommes émerveillés. Mais lui, probablement, c'est après coup qu'il a tremblé, en se rendant compte de la vraie portée des choses. On fait souvent de ce texte le récit de l'annonce de la naissance d'Isaac, après des années d'attente et de tâtonnement. C'est d'ailleurs sur cette note que ce texte, ce récit se termine. « Je reviendrai vers toi l'année prochaine et Sarah, ta femme, aura un fils. » Mais, nous l'avons vu dimanche dernier, Dieu avait déjà précisé sa promesse. Dieu avait déjà précisé sa promesse en annonçant que son alliance ne concernait pas Ismaël, mais concernait un fils, Isaac, que Sarah donnerait à Abraham. Genèse 17, verset 21. « En ce qui concerne mon alliance, avait dit le Seigneur, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'an prochain. » Genèse 18, reprend donc Genèse 17. Dans les deux paroles, il est question de cette même époque de l'an prochain. Comme il est difficile d'identifier les deux récits, il semble donc que cette visite incognito du Seigneur a lieu très peu après la promesse du chapitre 17, comme une sorte de confirmation. Mais du coup, quel est le sens de cette manière particulière d'agir du Seigneur? Venons-en au récit lui-même. La scène qui nous est décrite est une scène typique d'hospitalité orientale. Elle commence dans le cadre le plus quotidien, le plus banal. On est à l'heure la plus chaude du jour où, à cause de la chaleur, tout s'arrête. Abraham est assis à l'entrée de sa tente, nous dit le texte. Cela veut dire, concrètement, Abraham fait sa sieste. Il somnole. Abraham ne guette rien. Abraham n'attend personne. Il tient sa place de chef de clan à l'entrée de sa tente, mais et là, chef ou pas chef, tout le monde se repose. C'est ce contexte-là dans lequel les choses interviennent. On est en pleine normalité de la vie humaine, et même la normalité des heures creuses de la vie, celle où l'on s'engourdit un peu. Est-ce une image de ce qu'est un peu désormais la vie d'Abraham après les grands élans du début? Plus grand-chose ne survient dans sa vie. Il subit une certaine immobilité des choses. Tout change en tout cas avec l'apparition de trois hommes soudainement présents. Le récit nous indique leur présence comme une présence qui est là, simplement, ils sont là, debout, nous dit le texte. Abraham a pu ne pas les voir arriver s'il somnolait. Et c'est par eux qu'arrive donc la nouveauté dans ce moment immobile de sa journée. Et peut-être dans l'immobilité de sa vie. Nous savons par le récit que derrière ces trois hommes, il y a mystérieusement le Seigneur. C'est donc lui qui a l'initiative de la rencontre. Comme le dit si bien le début du chapitre, le Seigneur apparut à Abraham. Mais de cette initiative, de ce mouvement, Abraham ne perçoit rien. Les hommes sont là, simplement, debout. Il ne les a pas vus venir. Et du coup, le mouvement dans nos textes vient tout entier d'Abraham. Vous l'avez peut-être vu à la lecture. Et il est magnifique, Abraham, dans ses mouvements. Il court, il marque son respect en venant devant ces gens. Il les invite avec des mots délicats, à la fois pressants et pleins d'humilité. Avec délicatesse, il leur demande la faveur de les accueillir, la faveur qu'ils s'arrêtent là chez lui. Il s'empresse à faire face à leurs besoins, commande un peu d'eau pour les rafraîchir, leur laver les pieds, les invite à se reposer un moment, le temps qu'il leur cherche un peu de pain, comme il dit, pour réconforter leur cœur. Le vieillard somnolent de 90 ans, de 99 ans, est d'un coup un homme empressé, efficace, tout inquiet du bien de ses étrangers. Il ne bouge pas que déjà, il a tout fait, tout pensé. Mais avec tellement d'humilité. Ce n'est pas un chef qui ordonne à ces gens de s'arrêter, c'est un homme qui considère comme un privilège de pouvoir apporter un bienfait à des personnes qui sont là sur sa route. Il ne voudrait surtout pas qu'ils soient passés en vain devant sa tente. S'ils sont passés, dit-il, c'est bien pour cela, c'est ce qu'il dit au verset 5, pour ce qu'il peut leur apporter. Il se déclare leur serviteur, tant il a à cœur de faire quelque chose pour eux. Ça vaut la peine pour nous de lire ce récit et de lire l'empressement d'Abraham à l'égard de ces personnes qui croisent sa route. Nous nous sentons si facilement, au contraire, agressés lorsque quelqu'un croise notre chemin, lorsque quelqu'un s'arrête chez nous. Nous cherchons si vite à nous barricader, à nous protéger. Abraham manifeste là un cœur spontanément ouvert et une joie d'accueillir. Accueillir, c'est un privilège, dit-il, montre-t-il. Alors bien sûr, les chaînes de Mamré, ça n'est pas la ligne 13, c'est évident. C'est pas tous les jours non plus qu'il y a du monde qui se présentait devant la tente d'Abraham. Nous non plus d'ailleurs, c'est pas forcément tous les jours que des gens se présentent chez nous. Mais par-delà ces différences évidentes, ne pouvons-nous pas garder quelque part ce désir exprimé par Abraham ? Si vous êtes passé chez moi, j'aimerais que ce soit pour quelque chose. Si vous êtes là, passé devant ma tente, j'aimerais que ce soit pour quelque chose. Pour que d'une façon ou d'une autre, vous qui passez, vous puissiez réconforter votre cœur. C'est une belle intention d'Abraham ici. Et voyez son empressement. Il avait parlé de leur donner un morceau de pain, et le voilà qui court vers son bétail pour tuer un veau, après avoir sollicité Sarah pour qu'elle aussi s'y mette de son côté et prépare des gâteaux. Tout dit l'empressement dans le texte. Abraham va vite vers la tente de Sarah, et il cherche à communiquer sa hâte à Sarah. Vite, lui dit-elle, prépare des gâteaux avant de courir lui-même vers son troupeau pour aller tuer le veau. Vite, dit-il à sa femme, en courant lui-même. Une belle expression, me semble-t-il, de la confiance qu'il avait en Sarah, sur qui il sait pouvoir compter. Une image forte d'un couple où chacun prend sa part et peut compter sur l'autre. Mais le vrai empressement, c'est l'empressement du cœur. Voyez aussi la qualité des ingrédients, de la fleur de farine, dit-il à Sarah, la farine la plus fine pour faire ses gâteaux, un veau tendre et bon servi avec de la crème et du lait, vous en salivez. Ce n'est que lorsque tout est terminé qu'Abraham enfin se pose. Il se tient à côté de ses hôtes pendant qu'ils mangent. Pourquoi raconter cela ? Pourquoi tant de détails ? Il me semble que la clé nous est donnée par les premiers mots du chapitre, où le rédacteur nous informe « L'Éternel apparut à Abraham aux chênes de Mamré ». Nous le savons, Abraham ne le sait pas. Et la question qui se pose immédiatement, c'est et si Abraham avait agi autrement ? Et s'il en avait fait moins ? Et s'il n'avait pas manifesté ce magnifique empressement ? Nous qui savons, nous nous posons cette question vraiment. Abraham a eu la juste attitude envers le Seigneur qu'il ne reconnaissait pas encore. Mais cette juste attitude, il a pu la prendre parce qu'il a eu un vrai souci du prochain, un vrai souci de ces trois hommes qui croisaient sa route. Il a été généreux pour eux, il les a honorés. Et sans le savoir, c'est envers le Seigneur qu'il a été généreux et c'est le Seigneur qui l'a honoré. La leçon est clairement de nous dire que nous ne mesurons pas toujours la vraie portée du bien que nous faisons envers notre prochain ou de l'empressement que nous pouvons manifester. Le Seigneur était là dans ses voyageurs. Abraham a honoré le Seigneur en honorant ses voyageurs. Heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait. Le texte nous dit, me semble-t-il aussi, qu'il nous faut avoir le souci du moment présent. Du moment présent, même si nous n'en connaissons pas les tenants et les aboutissants. Ces visiteurs sont là, et même si c'est l'heure de la sieste et de la chaleur du jour, parce qu'ils sont là, c'est le moment pour prendre soin d'eux. Heureusement aussi qu'Abraham a saisi l'occasion, Heureusement qu'il a pris ce temps comme un temps qui se présentait comme une occasion pour faire le bien. Heureusement qu'il n'a pas refermé son œil pour prolonger sa sieste après les avoir vus. Heureusement. Rachetez le temps, nous dira plus tard l'apôtre Paul, ce qui veut dire saisissez le temps présent comme une occasion de faire le bien que vous pouvez faire. Bien des personnes vivent cela, par exemple, lorsqu'elles accompagnent une personne qui peut bientôt mourir. On saisit chaque instant, chaque moment, chaque occasion de faire quelque chose pour cette personne parce que l'on sait qu'on ne le regrettera pas. Parce qu'on sait que vraiment, on ne regrettera jamais d'avoir fait ce qu'on a pu faire. Et il nous faut apprendre à saisir ces occasions, saisir les moments qui nous sont donnés. L'Ecclésiaste nous dit plus largement, vous savez, celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. C'est-à-dire, celui qui veut absolument avoir toute la maîtrise de toutes les circonstances, il ne fera que regarder au ciel et attendre les circonstances favorables. Tu ne connais pas, continue l'Ecclésiaste, tu ne connais pas le mouvement du vent. Tu ne sais pas non plus l'œuvre que de Dieu qui fait tout. Aussi, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Sans le savoir, quelques-uns ont accueilli des anges, nous dit l'Épître aux Hébreux, en référence à Abraham et à Sarah. Et il dit cela pour nous encourager à persévérer dans l'amour fraternel et à ne pas oublier l'hospitalité. Alors, en disant cela, il ne nous invite pas à spéculer sur la portée de nos actes et à nous dire « qu'est-ce que je pourrais faire à des anges ?» ou « je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas ça le but. » Mais l'auteur nous invite à accorder une vraie attention aux personnes qui croisent notre route comme Abraham l'a fait, à considérer une rencontre comme une chance et non comme une charge, à avoir ce souci de racheter le temps présent, de l'utiliser pour le bien de notre prochain. Le reste, ce que cela peut produire, la façon dont cela peut entrer dans les projets de Dieu, cela ne nous appartient pas. Mais nous devons avoir à cœur de ne pas passer à côté du bien que nous pouvons faire. Et c'est une prière que nous pouvons adresser au Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas passer à côté de quelque chose d'important. C'est une prière que je fais assez souvent par rapport à mon propre ministère, dont je ne maîtrise pas toujours les tenants et les aboutissants non plus. Voilà donc pour l'histoire du côté d'Abraham, cette invitation à prendre en compte l'autre, à saisir le temps présent qui est donné et à entrer ainsi dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu peut utiliser plus loin. Mais qu'en est-il maintenant dans cette histoire si on la voit du côté de Dieu ? Pourquoi cette manière très précise de se manifester sous la forme de trois personnes qui s'approchent d'Abraham? Pourquoi cette manière particulière de confirmer la promesse? Première question d'abord, que dire d'abord des trois visiteurs par lesquels l'Éternel apparaît à Abraham? On sait que c'est l'Éternel qui apparaît, il y a trois visiteurs. Est-ce qu'ils représentent ensemble l'Éternel? Ou est-ce l'un d'eux plus particulièrement qui est reconnu comme le Seigneur? Le texte original est très particulier. Il passe régulièrement de « il » au pluriel à « il » au singulier. Et non pas « l'un d'entre eux » comme certaines de nos traductions le disent. Abraham voit trois hommes, court à leur rencontre, se prosterne. Ils sont trois donc. Et Abraham dit « Seigneur, au singulier, ne passe pas, je t'en prie. » Abraham parle ensuite aux trois, prépare pour eux, se tient à leur côté, puis il, au pluriel, demande « Où est Sarah ?» et il, au singulier, dit « Je reviendrai l'an prochain et Sarah aura un fils. » Après que Sarah ait ri, l'Éternel, le dit le texte, demande à Abraham « Pourquoi Sarah a ri ?» et il renouvelle la promesse de revenir l'an prochain. Puis les trois hommes s'en vont. Vous avez vu ce passage permanent entre « ils » au pluriel et « ils » au singulier? Comment comprendre? Comment traduire? La tradition orthodoxe voit dans ces trois hommes ensemble la manifestation du Seigneur. C'est les trois ensemble qui manifestent le Seigneur. Et on y voit une sorte d'image de la Trinité qui serait donnée. Et plusieurs icônes magnifiques, tout en subtilité, représentent ces trois personnages pour exprimer qu'il s'agit là d'une manifestation du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. La plus fameuse est celle d'un peintre russe, Andrei Rublev, qui dans son détail, dans sa composition, est un véritable traité de théologie trinitaire. Il a représenté les trois visiteurs, un même vêtement bleu à chacun pour signifier leur commune nature, un seul Dieu, une seule nature, un autre vêtement qui exprime leur diversité personnelle. Les personnages appartiennent au même cercle parfait et leurs regards tournés les uns vers les autres disent la communion unique qui les unit dans la paix. C'est vraiment très beau, c'est très très bien magnifique, très bien décrit et c'est très théologique. Si l'on regarde le seul texte de l'annonce de la naissance d'Isaac que nous avons lu, cette lecture pourrait rendre compte du jeu entre ce « il » au pluriel et « il » au singulier. On pourrait dire, oui, dans leur diversité, dans leur communion, les trois sont un, les trois sont l'unique Seigneur. Et ce serait pour cela qu'on pourrait passer du pluriel au singulier. Mais cette lecture, quand même, aussi féconde qu'elle puisse être pour nous, se heurte à une difficulté dans la suite du récit. Car dans la suite du récit, lorsqu'Abraham continue avec ses trois voyageurs et qu'on va vers Sodome, vers Gomorre, on voit alors l'Éternel seul rester avec Abraham et les deux anges se rendre vers Sodome et Gomorre. Ils sont décrits vraiment comme deux anges qui se rendent à Sodome et Gomorre. Et ça semble dire que ces trois visiteurs se distinguent plutôt en disant qu'il y en a un qui est vraiment le Seigneur manifesté sous forme humaine et les deux autres seraient plutôt des anges qui l'accompagnent. C'est ce qui permet probablement de rendre compte d'une meilleure façon de l'ensemble du récit. Alors on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais probablement qu'Abraham a reconnu dans l'un d'eux plus nettement le Seigneur lui-même, Yahvé, l'Éternel. Le moment où commence cette reconnaissance est probablement le moment où les visiteurs, ou celui-là en particulier, parlent de Sarah. Ils demandent « Où est Sarah ?» Et Sarah, c'est le nouveau nom que le Seigneur avait donné à Saraï. Et le moment également où, conjointement à ce nouveau nom, il y a le renouvellement de la promesse d'un fils. Voilà pour un essai d'élucidation de ce qui se passe. Mais pourquoi cette forme particulière de la révélation de Dieu pour confirmer sa promesse de la naissance d'Isaac? Toutes les promesses qui ont précédé ont été des paroles, des paroles où Dieu s'engage, ou alors des paroles où Dieu demande l'engagement d'Abraham. Et on a vu dimanche dernier avec cette parole d'alliance, où Dieu s'engage à donner un fils, mais où Dieu demande également à Abraham de respecter son alliance, lui et sa postérité après lui. Il me semble que pour cette deuxième rencontre du chapitre 18, la clé de la manifestation particulière de Dieu, la clé est ici la grâce. La parole reçue demande la foi, demande l'engagement. Mais ici, au moment où on arrive à l'étape la plus difficile, parce qu'il faut désormais vaincre très concrètement des obstacles humains insurmontables, le Seigneur choisit une voie où ce n'est pas l'exigence qui prime, mais où c'est la grâce qui prime. Il montre qu'il n'est pas simplement un Dieu qui vient, un Dieu qui promet, un Dieu qui demande également l'obéissance, mais il montre qu'il est vraiment un Dieu qui s'approche, qui se rend concret, qui s'approche vraiment d'Abraham, de Sarah dans leur situation. Il offre sa présence. Il montre également un intérêt tout particulier pour Sarah, qu'il appelle par son nom. Il a une parole qu'elle entend, qu'elle peut recevoir personnellement, même si elle est là, un peu cachée, derrière sa tente. Il s'est placé au bon endroit. Il montre qu'il fait, lui, le chemin vers nous, et que ce n'est pas simplement à nous de faire le chemin vers lui dans la foi, dans l'obéissance. Alors bien sûr, cela ne fonctionne pas à sens unique. Il a fallu aussi qu'Abraham, justement, ne referme pas les yeux dans sa sieste. Il a fallu qu'Abraham ne ferme pas son cœur à ses visiteurs qui s'approchaient. Les choses ne sont pas à sens unique. L'accueil prend ici une valeur importante. Tout comme plus tard, lorsque le Fils de Dieu, lorsque l'unique, endossera pleinement notre humanité pour y manifester l'amour et la beauté de Dieu, pour rendre possible notre salut, l'accueil sera déterminant. Rappelez-vous ce que dit le prologue de l'évangile de Jean, la lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu se donne dans la communion. Dieu se donne dans la communion avec l'initiative qui vient de lui, avec l'accueil qui nous revient. Mais Dieu aime manifester son amour. Dieu aime manifester sa richesse envers nous. Dieu aime manifester ses promesses pour notre vie dans la communion, dans la présence offerte, tout comme ces trois visiteurs qui viennent, et dans la présence accueillie, tout comme l'accueil d'Abraham. Voici, dit l'agneau Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce message, me semble-t-il, vers lequel pointe cette venue des trois visiteurs et la promesse qui l'accompagne. Dieu se donne, Dieu aime se donner dans la communion, dans la communion. Heureusement qu'Abraham a accueilli et honoré cette visite, avons-nous dit tout à l'heure. Pouvons-nous le dire aussi de chacun de nous? Pouvons-nous le dire aussi heureusement que j'ai honoré la visite du Seigneur? Pouvons-nous le dire par rapport à Jésus-Christ venu vers nous, plein de grâce et de vérité? L'avons-nous accueilli? Ou mettons-nous encore une barrière invisible? L'accueillons-nous jour après jour? Lorsque nous entamons notre journée, lorsque nous ouvrons les volets de notre chambre, est-ce que nous ouvrons aussi les volets de notre cœur au Seigneur chaque matin? Dieu se donne dans la communion. On ne découvre l'amour qu'en aimant. On ne découvre la relation qu'en se reliant. Heureusement qu'Abraham a accueilli et honoré cette visite. Et nous, le faisons-nous? Mais voilà, pour Abraham et Sarah, Cette visite débouche sur une promesse qui vient contredire toutes les possibilités humaines. Une grande promesse, un chèque cadeau inestimable, mais une réalité et des limitations humaines imparables. Et nous l'avons vu, nous l'avons lu devant cette incongruité, Sarah ne peut s'empêcher de rire en son cœur, en entendant la nouvelle de la bouche de ce voyageur, en entendant son nom lié à cette nouvelle d'un fils. Son rire est certainement proche de celui d'Abraham, qu'Abraham avait eu lorsque Dieu lui avait parlé juste un peu avant, qu'il ferait son alliance, non pas avec Ismaël, mais avec un fils que Sarah lui donnerait. Un rire sur soi, sur sa pauvre situation d'impossibilité humaine. Vous aurez peut-être remarqué combien le narrateur inspiré est ici d'une magnifique délicatesse. Il va parler du rire de Sarah, mais avant de parler du rire de Sarah, il explique d'abord la situation de ce couple âgé, incapable d'avoir des enfants. Abraham et Sarah, verset 11, étaient vieux d'un âge avancé. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même. D'abord, il mentionne la situation, ensuite, il mentionne le rire. Et parce que c'est cela, cette incongruité totale de la situation qui fait rire Sarah en elle-même. Le chèque cadeau est trop beau, la promesse est trop décalée. Elle se regarde, elle regarde Abraham, qu'elle appelle d'ailleurs mon Seigneur, malgré ses limitations à lui aussi. Et elle ne peut rire, elle ne peut que rire d'eux. Rire parce que ce serait trop beau aussi d'avoir un fils, mais qu'ils ont tout dépassé. Ils ont dépassé ensemble, l'un et l'autre, toutes les limites. Sarah rit en son cœur, à l'abri de sa tente. Et voici que l'un des visiteurs, celui qui est le Seigneur, devine ses pensées, formule la pensée et dépasse les objections. Celui qui voit ainsi dans le secret ne peut être que le Seigneur qui dit « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Oui, celui qui lit ainsi dans les cœurs ne peut être que le Seigneur. C'est ainsi qu'il est nommé dans le récit et il invite à la confiance malgré tous les obstacles. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur ? Question. Le rire de Sarah est-il le même que le rire d'Abraham au chapitre précédent ? Sur le fond, certainement. Il exprime le même sentiment d'une promesse trop grande et trop belle face à la réalité. Mais la différence est que Abraham, après avoir ri, a obéi. Il a circoncis les gens de sa maison. Il est entré dans les perspectives de la promesse que Dieu lui avait faite et qui impliquait l'idée d'avoir un fils. Il est entré, il a obéi. Il a fait cela comme il l'a pu. Sarah, quant à elle, rit, mais lorsqu'on lui dit « tu as ri », elle le nie, elle ment. « Je n'ai pas ri ». Elle est saisie de crainte, nous dit le texte. Elle comprend que celui qui lit dans son cœur et qui lit dans ses pensées secrètes est le Seigneur lui-même, mais elle veut probablement sauver la face, sauver les apparences. La solution, me semble-t-il, n'est pas de nous cacher nos difficultés à croire. La solution est plutôt de venir à la lumière avec nos difficultés à croire. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, disait un père face à ce que Jésus lui proposait pour sa fille. Reconnaissons humblement que parfois, oui, nous croyons, mais nous avons tellement besoin de secours pour vraiment croire. C'est certainement ce que Sarah aurait dû dire d'une manière ou d'une autre, plutôt que de vouloir sauver la face. Il restera pour Sarah, lié au souvenir de cette visite et au nom même d'Isaac, parce que Isaac signifie « rit », il restera le souvenir de cette fermeture, de ce blocage, de ce manque à l'honnêteté là où l'on sait reconnaître simplement, où il aurait mieux valu reconnaître simplement le besoin d'avancer, le besoin de progresser. C'est sur ces mots que se termine le récit. Le Seigneur ne cède pas et réaffirme à Sarah malgré son déni, si tu as ri. Dieu est un Dieu de vérité. On ne joue pas à cache-cache avec lui. Mais le vrai dernier mot du Seigneur sera son action envers Sarah, envers Abraham, envers et contre tout, envers et contre leur situation d'impossibilité humaine, envers et contre leur rire sur eux-mêmes et sur cette promesse à la fois tellement démesurée et tellement désirée. Dieu est plus grand que nos difficultés à saisir les ressources de sa grandeur. Sarah, quelques mois plus tard, rira de bonheur sur les collines où elle marchera portant l'enfant de la promesse. Et Abraham aussi rira de joie et de bonheur ébloui en voyant la silhouette ronde de sa femme dans le soleil couchant. Ils se souviendront de cette visite, porteuse de tant de grâces. Ils s'en souviendront avec reconnaissance. Ils s'en souviendront avec humilité. On est si petit devant la grâce de Dieu, si petit devant sa visite, si petit devant ses projets. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à accueillir celui ou celle que tu places sur notre chemin et à le faire avec joie et empressement de cœur. Aide-nous, Seigneur, à accueillir ton propre mouvement vers nous et la communion que tu veux nous offrir, pleine de réconfort, pleine de ressources, pleine de promesses. Aide-nous, Seigneur, à accueillir tes promesses, même lorsqu'elles nous bousculent, nous semblent trop élevées peut-être. Aide-nous à y persévérer, dans l'humilité, dans une foi honnête, et à nous fortifier dans la certitude qu'il n'y a rien d'étonnant de ta part, toi qui es le Dieu d'Abraham et de Sarah, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jésus-Christ, en qui toutes tes promesses sont oui et amen. Amen.